Bienvenue à cet éclectique du mois de juillet 2019. Dans cet épisode, nous allons parler d'outils, beaucoup d'outils, des outils en ligne, des outils pour télécharger, créer des choses intéressantes sur Internet, des outils pour vous protéger. Oui, on va parler de VPN cette semaine. On va démystifier un peu ce que c'est un VPN, grosso modo. On va parler d'applications iOS, d'applications sur macOS. On va avoir un moment de réflexion sur la quête du bonheur avec Albert Einstein. On va parler de santé, vous allez voir, ça va être très rapide, d'écologie. On va parler de véhicules électriques. Est-ce que c'est vraiment écologique une voiture électrique? Le gros débat. Et puis, ça va être faire le tour de l'émission. Alors, on va commencer d'entrée de jeu en vous souhaitant un très bon été, en espérant que vous allez bientôt avoir des vacances ou que vous avez eu des vacances ou que vous aurez des vacances. Bref, que vous allez pouvoir souffler de cette course effrénée à gagner sa vie. Et faut pas essayer de la perdre en essayant de la gagner. On va commencer toute l'émission avec des outils, la capsule outils. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup vous relayer des bons petits trucs. On va commencer par un outil qui nous est offert par Google. C'est un outil qui est intéressant dans la mesure où vous voulez partager des données, vous voulez partager de l'information. Ça s'appelle Data GIF Maker. C'est fait par Google. Ça permet de faire des petits GIFs animés pour représenter des données. Alors, pourquoi des petits GIFs animés? Tout simplement parce que les GIFs animés, même si c'est pas une technologie vraiment grandiose, c'est quand même une technologie qui a été implémentée dans beaucoup de plateformes de médias sociaux. Alors, si vous utilisez ces plateformes de médias sociaux-là, c'est vraiment assez intéressant. Vous avez des représentations graphiques de données. Alors, vous avez les rectangles. Alors, vous sur un gros rectangle avec des couleurs, vous êtes capable de dire qu'est-ce qui est le plus gros ou moins gros. Des fois, ça donne des perspectives. Vous avez des cercles et vous avez des Restrack. Ces trois types de GIFs-là, vous pouvez implémenter des données, vous pouvez représenter des choses qui peuvent être intéressantes à expliquer. Si vous êtes dans le domaine des communications numériques, notamment, ou tout simplement dans des pages Facebook, dans des pages, dans des comptes Twitter et ainsi de suite, à vos amis, à vos familles. C'est un outil qui est gratuit et qui est vraiment, vraiment bien fait, puis en bout de ligne, qui peut vous aider à expliquer des choses. Alors ça, c'était le premier outil Data GIF Maker, qui vous permet de faire des GIFs animés de représentation graphique. J'ai un deuxième lien que je vais vous référer aujourd'hui. Ça vient des outils de veille qui a relayé dernièrement, et ça m'est arrivé à quelques reprises où j'avais besoin de télécharger une vidéo que j'avais trouvé super intéressante dans Twitter. J'ai beaucoup de difficultés des fois à partager du contenu sur Twitter parce que des fois, les gens veulent pas y aller. Des fois, ça prend des comptes ou bref. On voudrait des fois récupérer cette vidéo-là pour l'archiver ou pour la conserver ou pour la présenter à d'autres personnes qui ont pas forcément de technologie. Et là, je vous ai trouvé dans ce site-là, qui est relayé par les outils de veille, trois sites qui vous permettent, à partir du lien de Twitter, de télécharger la vidéo qui a été générée. Alors, ça peut être utile des fois quand des gens font des shows. Tout simplement, si vous faites un périscope, ça va vous aider à télécharger la vidéo et à pouvoir l'amener ailleurs. Alors, c'est le lien est dans les notes de l'émission, c'est Download Twitter Video, c'est Save Tweet Vid et TW Down qui vous permettent de télécharger des vidéos. Ils ont l'avantage aussi de pouvoir, pour TW Down, télécharger les vidéos selon plusieurs qualités. Alors ça peut être assez agréable aussi. Toujours dans le léger, on va dire ça comme ça, j'ai un lien qui a été relayé par My Chromebook. C'est un outil, une extension sur Chrome qui vous permet de relayer ou de déceler les sites qui sont suspicieux. On le sait, en ce moment, la grosse problématique qu'il y a sur Internet, c'est d'arriver à trouver le faux du vrai. Les sites de fausses nouvelles ont tendance à avoir l'air bons et des fois, des sites de bonnes nouvelles ont tendance à avoir l'air moins bons. C'est une question d'apparence et des fois, notre cerveau nous aide pas du tout dans cette décision-là. Alors, Google a lancé une petit plugin que vous pouvez installer dans votre Google Chrome. Ça s'appelle Suspicious Site Reporter. C'est un plugin que vous installez sur votre Chrome et qui va vous dire si le site est suspicieux, va vous mettre un petit drapeau et vous allez avoir des notifications. Alors, si vous allez aller sur votre site, vous avez un blog à vous, un blog personnel, ainsi de suite, et que vous avez installé l'extension, vous allez remarquer que l'extension met un petit drapeau orange sur des sites peu ou pas visités. C'est un peu normal parce que il y a un premier déclencheur qui pourra attirer votre attention qui dit que ben, le site n'apparaît pas dans le top 5000 des sites les plus visités dans le monde. Google a beaucoup de données et est capable de vous dire si le site que vous visitez est pas dans le top 5000. Ça veut pas nécessairement dire que le site est mauvais, mais juste ça, ça peut vous dire que c'est peut-être pas une source, une référence intéressante par rapport au contenu que vous voulez voir. Il y a un drapeau aussi qui va lever quand le site n'a pas été visité au cours des 3 derniers mois et que le domaine, le nom de domaine utilise des caractères un peu bizarres, un peu différents. Il y avait eu cette histoire-là dans les derniers mois où il y a des gens qui avaient acheté des noms de domaine avec des caractères particuliers qui faisaient que on n'arrivait pas à distinguer si c'était vraiment le apple.com ou leur apple.com. Bref. Avec cette extension-là, vous êtes en mesure de savoir si vous pouvez avoir des doutes sur l'information que vous avez. Vous pouvez aussi rapporter le site comme étant frauduleux, si des fois c'est très clair. Vous pouvez aussi envoyer un screenshot de l'information. Vous pouvez dire il y a du problème dans le code du site. Et puis, vous pouvez dire aussi, mettre un petit commentaire par rapport au site que vous avez vu. Alors, si vous voyez des choses qui ont l'air un peu bizarres ou que vous avez la certitude que c'est pas un bon site, c'est pas un bon site à référer, alors n'hésitez pas à aider la communauté Internet, à aider Google en fait à améliorer son référencement, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre en ce moment de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. On va aller toujours dans l'axe de sécurité à un article de Numérama qui est sorti dernièrement qui fait état des meilleurs VPN selon plusieurs critères de Numérama. Alors, qu'est-ce que c'est un VPN? Un VPN, c'est simplement un réseau privé sécurisé chiffré. Typiquement, quand vous vous connectez à Internet de chez vous, vous passez par votre ordinateur qui va souvent aller dans un routeur, dans un modem, dans une box, puis après ça va aller à votre fournisseur d'accès Internet. Votre fournisseur d'accès Internet va le relayer sur différents serveurs jusqu'à temps que vous tombiez sur le site que vous voulez aller ou sur le service que vous voulez consommer. Alors, ces sites-là, toutes ces transactions-là, en général, sont pas... On a tous de quoi à cacher, mais si vous faites pas de mal, vous pouvez pas avoir d'inquiétude. Mais par contre, si vous allez, exemple, dans un café Internet, on prend toujours cet exemple-là, ou un réseau privé que vous connaissez pas, un réseau public que vous connaissez pas, lorsque vous allez taper ces chaînes de caractères-là, lorsque vous allez échanger sur Internet, ça se peut que... le routeur, le fournisseur d'accès dans lequel vous passez que vous ne connaissez pas, ne soit pas de confiance. Typiquement, vous pouvez aller voyager dans certains endroits, avoir de l'Internet, et puis là, tout votre Internet va être aspiré, sniffé et fouillé. Alors ça, c'est un cas d'usage quand vous voyagez. Ça peut être un bon outil. Parce qu'un VPN, qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? C'est que ça va chiffrer de bout en bout une télécommunication. Vous installez un logiciel VPN et lorsque vous faites une connexion vers un site, votre logiciel VPN va prendre cette connexion-là, va la chiffrer, va l'envoyer sur les serveurs du VPN, du fournisseur de VPN, et va le déchiffrer à l'endroit où vous l'avez spécifié. Vous pouvez techniquement dire, en installant un VPN, je veux que mon VPN de sortie, là où je vais sortir, soit dans un autre pays, par exemple. Ça peut aussi aider à toute cette ce géoblocking qu'on voit des fois où vous essayez d'accéder à un site et il est bloqué. Typiquement, les Français ou les Européens, avec la loi sur le RGPD, vous remarquez que certains sites nord-américains sont bloqués lorsque vous voulez les consulter. Avec un VPN, si vous dites que votre VPN va être en sortie dans le pays dans lequel vous voulez consulter, typiquement au Canada, exemple, vous allez faire croire au serveur sur lequel vous allez ou au site auquel vous allez que vous provenez du Canada. Tout votre trafic va être chiffré Et bref, votre fournisseur d'accès ne pourra pas voir ce que vous faites. Personne ne pourra le voir à part le fournisseur d'accès VPN. Et c'est là que j'attire votre attention sur l'importance de faire attention à qui vous faites affaire dans ces genres de services-là. Il y a beaucoup de VPN gratuits et généralement, je dis pas qu'ils sont tous louches, mais je me dis qu'ils doivent avoir un modèle d'affaires pour fournir ce genre de service-là, parce que ça coûte assez cher à un fournisseur de VPN à offrir ce type de service-là en termes de ressources, en termes de serveurs, en termes d'infrastructures. Et je me dis qu'à quelque part, ils doivent se repayer. Comment vous imaginez que probablement ils revendent l'information qui transite par leur service? Alors un VPN, ça a comme objectif de sécuriser votre communication, votre navigation sur Internet en passant par eux. Votre fournisseur d'accès ne verra que du trafic, des datas passées, mais ce sera des données, toutes chiffrées. Elles seront chiffrées sur votre ordinateur et seront déchiffrées sur les serveurs de votre fournisseur VPN. L'intérêt d'avoir un fournisseur VPN assez gros, c'est d'avoir une multitude de serveurs de sortie. Alors moi, typiquement, j'utilise depuis plusieurs années Private Internet Access, PIA, et PIA a beaucoup, beaucoup de serveurs sur la planète, ce qui fait que quand je veux consulter des sites qui sont bloqués à partir du Canada, exemple un site suisse, ou un site belge, ou un site russe, j'ai des serveurs de Private Internet Access dans ces pays-là, alors je démarre mon application et je peux aller simuler le fait que je suis dans les pays où je veux aller visiter. Alors ça, c'est un premier cas d'usage. Je vous ai le deuxième cas d'usage, en fait. Le premier, je vous disais, c'était pour sécuriser votre transaction, vos connexions à Internet quand vous êtes dans des lieux publics, en voyage. Et puis évidemment, il y a le cas un petit peu plus sombre où vous voulez pas vraiment que les gens sachent ce que vous faites. Et là, on vient avec des téléchargements illégaux, des choses comme ça. Un VPN va vous protéger aussi de ça pour ceux qui comprennent un peu la technologie. Vous comprenez qu'il y a juste le fournisseur d'accès qui va savoir ce que vous faites. Alors évidemment, je vous redis encore une fois qu'il faut faire très attention à quel type de fournisseur d'accès vous allez avoir, vous allez utiliser. Il y a plusieurs types de fournisseurs d'accès. Il y en a qui ils sont gratuits, comme je le disais tantôt, et peut-être qui donnent toutes vos données de navigation à des entités publiques ou même pire. Alors faites attention à quel type de fournisseur d'accès vous faites affaire. Dans l'article de Numérama, pour en revenir à ça, il réfère à quelques fournisseurs d'accès qui sont assez intéressants avec toutes sortes de vitesses de connexion. Alors évidemment, ça aussi, il faut faire attention parce que quand vous passez par un réseau VPN, vous chiffrez, vous allez en sortie sur d'autres serveurs, ce qui fait qu'en général, ça peut aussi ralentir votre débit. Alors, faut avoir aussi un bon fournisseur d'accès qui a une belle infrastructure. Alors, dans l'article de Numérama, on parle de NordVPN qui est assez fort en ce moment pour la publicité. Vous le voyez dans beaucoup, beaucoup de sites de YouTubers. Vous avez ExpressVPN et CyberGhost. C'est tous des serveurs VPN qui ont un tarif variant entre 2 euros par mois, 2,60 par mois, jusqu'à aller à un peu plus cher, 10 euros par mois. Private Internet Access, moi, que j'utilise, et a beaucoup d'offres gratuites, et je vous le conseille. C'est assez réputé, Private Internet Access, dans le milieu. Et en plus, il y a toutes sortes de facilités quand vous utilisez Private Internet Access. Je vous les explique. Vous pouvez installer un VPN, évidemment, sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi installer un VPN sur votre téléphone. Alors, pour ça, il faut avoir des applications qui vont bien. Alors, évidemment, si vous utilisez PIA, le mien, Private Internet Access, ou les autres, mais moi, je vais vous vendre le mien parce que je vais vous donner un code de référence pour pouvoir avoir, moi, un mois gratuit, et puis pour vous aussi avoir un mois gratuit. Avec Private Internet Access, vous avez, je vais les nommer là parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'applications. Alors, il y a l'application pour Windows, il y a l'application pour Mac, il y a l'application pour Linux, il y a l'application pour Android, il y a l'application pour iPad et iPhone, et il y a aussi l'application des extensions que vous pouvez mettre directement dans vos navigateurs, Chrome, Firefox et Opera. Ce qui fait qu'avec ces 8 façons de vous connecter à partir des services de Private Internet Access, vous êtes en mesure de protéger vos connexions, comme je vous le disais tantôt, et où vous cachez du pays, du géoblocage, où vous ou tout simplement vous astreindre des blocages qu'il y a dans certains sites ou certains contenus. Des fois, il y a des sites de reportage qu'on voudrait voir et qui sont bloqués dans le pays dans lequel vous voulez aller. Je n'ai pas essayé Netflix, mon abonnement Netflix, à partir de VPN pour aller voir du contenu des pays avec ça. Mais pour certains pays, ça a l'air à fonctionner. Mais bref, moi, je ne l'ai pas essayé, je peux pas vous le garantir. Mais par contre, ce qu'il y a de bien avec l'application de Private Internet Access, c'est que dans tous les cas, elle vous offre la possibilité de voir à l'avance quel est le réseau le plus rapide que vous allez utiliser. Alors, l'interface est vraiment simple. C'est un gros bouton vert. Elle a pas été autant belle que maintenant, je vous dirais. Et elle a toutes sortes de facilités qui sont de notifier quand la connexion tombe. Des fois, ça peut arriver. Elle peut démarrer automatiquement. Vous pouvez dire à votre téléphone, vous pouvez dire à votre ordinateur de démarrer directement à partir d'un réseau privé. Quand vous êtes en voyage, vous connectez un peu partout sur toutes sortes de Wi-Fi. Ça peut être agréable de le savoir. Elle permet aussi d'avoir une protection sur la publicité. Alors, malheureusement, quand vous l'activez, quand vous avez des fois des publicités sur les sites web ou des contenus un peu désagréables à voir, vous installez des plugins, mais des fois sur des applications, ça bloque pas tout. Avec Private Internet Access, vous avez Maze qui bloque le contenu un peu emmerdant que vous pouvez voir sur Internet. Et ben ça va aussi vous protéger en termes de data parce que ben vous avez moins de trafic de publicité qui va avoir moins de sniffage de vos données. Vous pouvez aussi choisir le thème, un thème foncé, un thème clair, c'est un peu la mode. Mais il y a aussi le leak de données. Je vous explique. Si, par exemple, vous utilisez un système pour télécharger des torrents illégaux et que vous avez parti votre Private Internet Access et que votre Private Internet Access, vous n'avez pas activé la fonction data leak, connection leak, fuite de connexion, ben si votre connexion tombe, Private Internet Access s'éteint et quand tout va redémarrer, ben peut-être que vous allez avoir donné votre adresse IP en faisant des choses illégales. En mettant cette protection-là, de la minute qu'il n'y a plus de connexion Internet, Private Internet vous protège et ferme toutes les connexions de votre ordinateur pour qu'il n'y ait personne qui puisse savoir, à part Private Internet Access, d'où vous venez. Alors, j'ai dit Private Internet Access peut savoir d'où vous venez, mais il ne conserve aucun fichier de journalisation, aucun log. Ça fait plusieurs années qu'ils le disent. Ils vous laissent aller dans les endroits où vous voulez, mais ils n'écrivent nulle part ce que vous faites. Ils vous rendent le service sans noter ce que vous faites. Alors, c'est vraiment, franchement, un service que j'apprécie, que je vous recommande. Ça fait plus de 5 ans que j'utilise. Et ben dans les notes de l'émission, il y a un lien de promotion que vous allez pouvoir utiliser. Pour les plus maniaques d'entre vous, vous pouvez payer. Ben évidemment, vous pouvez payer avec une carte de crédit, mais vous pouvez aussi payer avec d'autres moyens, d'autres monnaies. Typiquement, vous pouvez payer jusqu'avec des cartes cadeaux, des bitcoins. Alors, pour ceux qui sont un peu maniaques de se faire retracer, puis c'est correct, je juge pas ça, mais vous pouvez payer avec carte de crédit, PayPal, bitcoin. Si je regarde là, il y a toutes sortes d'autres icônes là que j'ai, mais aussi en carte de cadeau. Apple, carte de cadeau que vous allez retrouver sur dans les magasins et vous allez pouvoir payer avec ça. C'est assez fabuleux si vous voulez vous cacher et si pour vous l'anonymat est excessivement important. On le voit hein, dans l'actualité, ça l'est de plus en plus important pour certaines personnes. Alors je ne saurais que vous recommander très très chaudement un VPN dans tout ce que vous faites. Évidemment, c'est des frais supplémentaires, mais en même temps, est-ce que ça a vraiment un coût d'être protégé? Petit moment publicité où, ben, je vous explique un peu comment vous pouvez faire pour m'aider. Parce que oui, le podcast, ben, je le fais tout seul, mais je le fais aussi grâce à vous et, ben, grâce à vos encouragements. Alors, il y a plusieurs moyens de m'encourager. Le premier qui est assez direct et qui fait vraiment plaisir, ben, c'est la plateforme Patreon, patreon.com, où vous pouvez commencer à m'encourager à partir de 1 euro par mois. Et, ben, je vous explique un peu, en quelque sorte, comment ça m'encourage. D'abord, quand des gens me donne de l'argent, je me sens tout de suite redevable. Et ma façon d'être redevable, c'est de toujours produire. Alors, produire des podcasts, produire des capsules, produire des billets de blog, mais toujours produire. Et ça, c'était vraiment un bon moyen pour moi de m'encourager à produire. Alors, ça paye pas tout, mais ça paye aussi certains autres podcasteurs parce que je me suis abonné à d'autres Patreons via l'argent que vous me donnez. Et en bout de ligne, ben, ça nourrit tout un écosystème de podcasts et de productions auxquels je participe. Alors, ça, c'est un moyen très direct et très concret pour m'aider à m'encourager à produire. Alors, pour ceux qui l'ont fait, merci à l'avance. Pour ceux qui vont le faire, ben n'hésitez pas, $1 par mois en fait, et ben vous pouvez arrêter ça n'importe quand. C'est très simple et vous pouvez même peut-être donner plus que $1 par mois. Alors merci beaucoup par avance. Il y a aussi un autre moyen de m'encourager. En fait, deux autres moyens qui sont assez assez directs. Le premier en fait, ce serait de relayer les émissions. Lorsqu'une émission sort, ben vous la voyez sur Facebook, vous la voyez un peu partout. J'essaie de publier un peu partout dans les médias sociaux. Et ben de la partager, ça fait du bien de dire que l'émission vous l'aimez et pourquoi vous l'aimez dans les médias sociaux, ça fait du bien et ça fait toujours plaisir. Et aussi, ben dites-vous que les recommandations que vous faites à vos personnes, votre entourage, votre réseau sont toujours beaucoup plus crédibles que n'importe quelle autre publicité que je pourrais faire et j'aurais pas certainement pas les moyens de faire. Alors, si vous voulez m'encourager directement Patreon, indirectement de la publicité que vous pouvez faire dans votre entourage, famille, amis, collègues, et ainsi de suite. Et finalement, le troisième moyen de m'aider, qui est assez concret, c'est de mettre un 5 étoiles dans le catalogue de podcasts iTunes. Alors, c'est un catalogue de podcasts directement sur Apple, on le comprend, mais ceux qui peuvent l'avoir sur PC aussi, vous pouvez le faire ou dans votre téléphone, mettre un 5 étoiles, un petit commentaire, et ça aide toujours à ressortir un peu l'émission du lot des autres émissions. Alors, merci par avance de m'encourager, merci par avance de publiciser l'émission et de m'aider et de la noter. Merci beaucoup. On revient aux émissions, en fait, à mes recommandations. Alors, on va y aller un petit peu en furie, en pleine vitesse. On va y aller avec des applications pour macOS. Pour ceux qui ont un système d'exploitation Mac, pour ceux qui ont un Mac, un ordinateur Apple, vous allez vraiment apprécier cette partie-là parce que je vous ai trouvé des applications qui sont très facilitante et à la limite qui vous sauve du temps. C'est un peu toujours ce qu'on aime dans ces genres d'applications. On va y aller tout de suite avec POCK, P-O-C-K, qui est une application gratuite, celle-ci, pour mettre des widgets dans la Touch Bar. Pour ceux qui ont un Mac avec un Touch Bar, il y a des avantages à l'avoir, mais on l'utilise pas à sa pleine capacité. Je suis désolé Apple, mais vous avez pas bien fait le travail par rapport à la Touch Bar. Tout se fait pas bien à partir de la Touch Bar quand on n'utilise pas des applications qui en prennent la pleine possession. Typiquement, si vous utilisez un Photoshop, ça peut être facilitant d'avoir la Touch Bar, mais si vous n'avez pas Photoshop, il y a beaucoup d'applications qui n'utilisent pas le plein potentiel de cette Touch Bar-là. Alors, c'est ce que veut aider à faire POCK. POCK vous permet d'installer des petits widgets, il y en a 5, mais 5 quand même assez intéressants qui peuvent être facilitants. Alors le premier widget, c'est tout simplement d'avoir le dock dans votre Touch Bar. Vous savez, toutes vos applications que vous avez dans votre dock en bas ou en haut à gauche, là, le lanceur de Macintosh, vous allez pouvoir l'avoir directement dans le Touch Bar, ça c'est chouette. Il y a un widget pour Spotify, il y a un widget pour le statut. En fait, toutes les espèces de petites d'informations qu'on a à côté de l'horloge en haut à droite, vous allez pouvoir l'avoir dans POCK directement, un peu plus visuel. Des fois, on a peut-être plusieurs plugins ou plusieurs applications qui jouent en même temps, puis on voit pas tout. Vous avez Escape Widget pour enlever les widgets, tous les widgets que vous avez là. Et vous avez aussi, évidemment, ben, le Control Center normal. Fait que, bref, dans cette application-là, qui est gratuite, qui est open source, qui est sur GitHub, vous allez pouvoir vérifier le code, vous allez pouvoir ajouter ou améliorer l'usage de la Touch Bar. Le deuxième, ça s'appelle OneSwitch de Fireball Studio, une application qui est vraiment intéressante, qui vous permet à partir de un toggle à côté de l'horloge, on en parlait tantôt, d'avoir rapidement des switches pour toutes sortes de trucs. Alors vous avez le moyen de fermer directement certaines applications, exemple vos AirPods, vous avez moyen de mettre en mode ne pas déranger directement, faire night shift directement partir le screensaver, embarquer le True Tone. Toutes ces fonctionnalités-là qui sont un petit peu dispersées, on va le dire comme ça, dans les paramètres d'Apple, ben, toutes ces applications-là se retrouvent directement dans cette One Switch où vous pouvez ajouter, paramétriser des choses à votre gré, en fait, avec ce qui vous plaît. Vous pouvez en ajouter, en retirer. Vous avez évidemment le mode sombre, le mode clair, qu'on aime bien. Et ben bref, vous pouvez faciliter certains traitements par rapport à ça. Alors, elle est payante. Elle coûte 4,99 pour un device. Et si vous avez deux Mac, vous avez un rabais de 10%, elle tombe à 8$. Évidemment, elle vient aussi, pour ceux qui connaissent, via le Setapp, S-E-T-A-P-P. Setapp, ce que c'est le Netflix des applications sur Mac. C'est le moyen, en fait, de pas trop se casser la tête quand on consomme beaucoup d'applications. C'est le moyen d'avoir une multitude d'applications sans les payer toutes une par une. Setapp, c'est vraiment le Netflix. Vous installez Setapp, ça coûte 10$ par mois. Et vous avez à peu près 150 applications Mac disponibles à utilisation mensuelle. Fait que bref, vous payez juste 10$ et vous, après ça, vous avez plein d'applications. Je vais vous en nommer quelques-unes là, qui sont intéressantes. Ben là, on vient de parler de One Switch, mais vous avez aussi Xmind pour ceux qui aiment le mind mapping. Vous avez Clean My Mac qui est quand même assez cher. Vous avez Bartender, vous avez des applications comme Flume, vous avez Archiver, Ulysse. Quand vous connaissez les prix de ces applications-là, ça peut-être être intéressant de répartir ça sur un mensuel ou tout simplement si vous avez un projet puis pour lequel vous voulez pas payer l'application au complet, mais vous voulez qu'on être légal, ben vous pouvez utiliser cette app qui est quand même une bonne idée pour ne pas pirater et pour avoir des logiciels bien légaux, mais sans les payer tout au complet. Vous avez évidemment, vous avez MindNode, vous avez Ulysse, comme je l'ai dit, vous avez Blogo, vous avez plusieurs applications qui sont intéressantes. Vous avez Chronicle. Chronicle, c'est une application sur macOS qui vous permet de faire des budgets. Vous avez aussi MoneyWise, qui est l'équivalent de Chronicle pour faire des budgets. Vous avez GiveFox. Bref, 150 applications très, très connues, très bien faites, que vous n'aurez pas à payer et pour un prix mensuel de 10$. Et comme je vous le dis, ça peut être intéressant de prendre un mois gratuit, ben pas un mois gratuit, mais de prendre un mois d'utiliser pour un projet, tout simplement. Alors, l'application, je vous disais, One Switch, a fait partie de cette catégorie de setup. Mais, il y en a une autre application que je voulais vous parler. Elle s'appelle, tout simplement, Flotato. Flotato, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen d'avoir des applications web en fait des pages web en app. Flotato, c'est une application qui vous permet d'avoir de base plusieurs applications, exemple Twitter en mode Flotato, en mode application. Ça vous permet d'avoir Instagram en mode application. Ça vous permet d'avoir Wikipédia en mode application. Et ça vous met une belle icône dans votre launcher d'application. Ça, vous pouvez le mettre aussi dans le dock. Mais ce que ça permet de faire aussi, ça permet de tout simplement de se faire des Flotato personnalisés. Vous pouvez créer vous-même des Flotato avec un site web, avec un bout de site web, avec un endroit le faire vous-même. Exemple, je sais pas, moi, vous avez un site que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les actions, le prix des actions, et vous savez qu'il est responsive, vous savez qu'il est chouette, ça, puis vous voulez l'avoir en mode applicatif, en mode icône, et ben Flotato vous permet de faire votre propre Flotato à vous. C'est gratuit. Il y a un mode pro qui permet de faire des choses que j'ai honnêtement pas vu intéressantes pour mes usages. Le mode pro aussi, ben, encourage évidemment le développeur, mais vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans le mode pro si vous voulez tout de suite. Si vous voulez l'essayer, là, Flotato gratuit est vraiment correct. Flotato pro, là, je vais sur le site pour vous dire exactement ce que ça comprend. Non, je ne l'ai pas trouvé. Bref, Flotato normal, de toute façon, est amplement suffisant et vous permet de faire des applications flottantes juste pour vous ou personnalisées. Fait que Flotato, une autre application macOS que je vous recommande pour le mois de juillet. Alors, évidemment, je suis assez Mac-centrique, hein, vous comprenez, c'est un peu emmerdant de vous dire des... de vous donner d'autres trucs, mais écoutez, j'utilise ça. On va y aller avec des apps iOS. J'en ai deux à vous référer cette semaine. Une qui est plus utilisable sur un Apple TV, mais qui fonctionne aussi très très bien sur un Mac ou sur une télé. Ça s'appelle Quiz Explora, qui est fait par Radio-Canada. Radio-Canada au Canada, c'est le service public de télévision. Et cette application-là offre la possibilité de faire des quiz sur... un peu plus, en fait, sur plusieurs sujets, l'écologie, les sciences, la technologie, le politique, la géographie, et il y a même des quiz un peu, comment on dirait ça, génériques, et ça vous permet, ben, dans le confort de votre salon, par exemple, si vous avez une Apple TV, ben, de partir des quiz à la télé, et ben, c'est vraiment bien fait, c'est de la lecture, hein, c'est pas plus compliqué que ça, c'est des cartes, c'est des lectures, et puis vous choisissez quatre réponses. Évidemment, quand vous l'installez, elle est gratuite, vous avez la format iPad, iPhone et Apple TV d'un seul coup qui s'installe, et ça, c'est vraiment chouette. Alors, si vous voulez apprendre des trucs au cours de soirées, au camping, exemple, pendant vos vacances, avec vos enfants, Quiz Explora est vraiment une application que je vous recommande. Deuxième application iOS que je vous recommande pour le mois de juillet, c'est une application qui est faite par Sylvain Lafrance. Vous vous rappelez, on l'avait eu à l'émission, c'est à l'émission du développeur, le développeur québécois d'applications iOS qui nous avait parlé des problèmes qu'il y avait eu, des problèmes de santé mentale aussi à travers l'émission. Et là, il s'est lancé dans une nouvelle application, elle s'appelle PhotoHit. Qu'est-ce que c'est PhotoHit? C'est une application iOS qui permet de prendre des photos en notes. C'est un peu un post-it photo. On va dire ça comme ça. Si vous voulez pas utiliser Notes d'Apple, si vous voulez juste faire des photos, je vous recommande cette application-là. Elle est gratuite. Elle inclut évidemment du achat in-app pour retirer les publicités. Mais grosso modo, ce que ça fait, c'est que au lieu de prendre des photos d'objets qui se classent dans vos photos d'Apple, ben vous prenez cette application-là, vous allez prendre des photos et vont rester tout le temps dans PhotoHit. Typiquement, je sais pas moi, si vous prenez des prix de produits, si vous prenez des dimensions, si vous prenez des photos de, vous êtes inspecteur pour des assurances, si vous avez besoin de prendre des photos de dommages, mais pas mêler vos photos de dommages dans vos photos personnelles, ben PhotoHit va avoir l'avantage de les classer dans PhotoHit et de pas les avoir à travers vos photos de vacances, grosso modo. Elle est classée ici au Canada 5 étoiles. Ben, il débute, hein, Sylvain, là-dedans. Si vous voulez l'encourager dans cette application-là, si vous voulez l'aider à trouver des nouvelles fonctionnalités, il est super accessible sur Internet. Et franchement, elle vaut vraiment la peine d'être installée et d'être essayée parce qu'elle fait vraiment le travail. Vous avez besoin de prendre des notes en photo des fois et pas de les perdre à travers des... Je vais reprendre l'exemple de ma conjointe. Elle prend beaucoup de photos de recettes, des fois, dans des livres qu'elle voit. Et puis, toutes ces photos sont à travers les photos des enfants, à travers les photos des voyages. Ben, avec PhotoHit, au moins, elle est capable de se faire un carnet PhotoHit où elle met juste les photos qu'elle prend par rapport à ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui font ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui font ça différemment. Je sais qu'il y en a plein d'applications. Mais là, on encourage un ami. On encourage quelqu'un de la communauté, Sylvain Lafrance, qui a fait une belle application qui s'appelle PhotoHit. On va y aller dans les réflexions sur le bonheur. On avait fini la partie application et deux articles que je voulais vous relayer sur le bonheur et qui me font beaucoup réfléchir en ce moment. Le premier article, ça vient du site Les Affaires et le titre, c'est « Le conseil oublié d'Einstein pour être vraiment heureux au travail hein? ». Parce que les affaires, ça parle de travail. Mais vous allez pouvoir l'extrapoler à votre guise. Vous pouvoir l'adapter, pas juste au travail. Hein? On va arrêter juste de parler de travail, c'est l'été. Alors, je vais vous raconter l'histoire. La scène se passe en 1922 à l'Impérial Hotel de Tokyo, au Japon. Un jeune groom est chargé de transmettre un message à un client, un certain Albert Einstein. Un physicien allemand qui avait récemment appris qu'il allait avoir le prix Nobel de physique. Alors le groom toque à la porte, va voir pour apporter ce message-là à Monsieur Albert Einstein pour qu'il soit content de qu'il va avoir le prix Nobel de physique. Et Albert Einstein répond à la porte, prend le message et est très content et pour le remercier, essaye de donner un pourboire. Malheureusement, au Japon, c'est un peu mal vu de donner un pourboire. C'est un geste inconvenant là-bas. Alors, Einstein, assez heureux, voulant gratifier, remercier le groom, lui dit « Attends un petit peu », il griffonne deux notes de papier. Deux notes qu'il remet au groom. Qu'il remet au groom en disant « Avec un peu de chance, ces notes vous seront peut-être beaucoup plus utiles qu'un simple pourboire ». Ces notes ont réapparu en 2017. Évidemment, ils ont vérifié l'authenticité, le fait que c'était lui, et ils ont été vendus aux enchères pour 1,56 million de dollars aux enchères à Jérusalem. Et qu'est-ce qui était écrit sur ces deux notes-là? Je vous le donne en mille. Ça avait un lien avec le bonheur. La première disait « Une vie tranquille et modeste procure plus de joie que la poursuite du succès, laquelle n'attire que des problèmes. » L'autre note disait « Là où il y a une volonté, il y a une voie. » Alors, que signifie la première pensée? Le bonheur dans la vie comme au travail réside non dans la complexité, mais dans la simplicité. C'est ce que dit l'article et je suis tout à fait d'accord. Courir après la gloire ou la richesse ne mène nulle part. On l'a vu dans plusieurs émissions, si vous m'écoutez, que le bonheur, ben ça se quantifie pas nécessairement avec de l'argent, ça se quantifie pas non plus avec des choses très très compliquées. Que le meilleur moyen d'aboutir est d'agir posément, en harmonie avec soi-même et l'écosystème dans lequel nous évoluons. Ça, c'est une phrase que je trouve tellement importante qu'on oublie par rapport à nos vies en général, l'écosystème dans lequel nous évoluons. Si vous êtes dans un milieu de travail qui est particulier, ben, faut respecter cet écosystème-là. Qu'est-ce que dit la seconde note d'après vous? Que de vouloir, c'est pouvoir. C'est donc qu'il convient de toujours demeurer optimiste, y compris lorsque le nuage noir se profile à l'horizon. Pourquoi? Parce que celui qui veut vraiment trouvera nécessairement le moyen d'arriver à ses fins. Ça là est un peu plus discutable dans la définition de l'article, mais là où il y a volonté, il y a une voie. Effectivement, on apprend dans les lectures, dans beaucoup de biographies, que le secret de certaines personnes, ben c'est pas forcément qu'ils sont très intelligents, c'est qu'ils essayent tout le temps. Je sais pas si vous vous rappelez, je veux parler à des gars. Quand j'étais jeune, adolescent, il y avait toujours un gars dans mon groupe d'amis qui était moyennement beau, moyennement intelligent, moyennement intéressant, mais ce gars-là allait toujours voir des filles que les autres allaient pas voir. Il y avait cette volonté-là. C'est vraiment une anecdote stupide pour l'émission, mais elle est drôle. Elle est festive, on va dire ça. Elle est estivale, on va plutôt estivale. Et ce gars-là avait la volonté de toujours aller voir les belles filles qu'on lui disait, ben non, tu l'auras jamais, cette fille-là. Elle voudra jamais sortir avec toi. Elle voudra jamais te donner son numéro. Puis en bout de ligne, ben, il se retrouvait toujours avec des belles filles, qu'on faisait, ben voyons donc, ça se peut pas là que t'aies réussi ça. Ben oui, c'est parce qu'à force de volonté, il finissait par y arriver. Ben c'est un peu le principe de cette deuxième note là de Albert Einstein, pas d'aller voir toujours les belles filles, c'est pas ça. Vous comprenez l'idée en arrière de ça. Je vous mets ça évidemment le lien de cet article là avec les photos des notes d'Albert Einstein que vous allez pouvoir voir dans les notes de l'émission. On va passer toujours dans la même thématique du bonheur. Un article du journal Le Soleil. La recette du bonheur, le titre, c'est « La recette du bonheur, plus de temps et moins d'argent ». On se rend compte de plus en plus que le temps vaut beaucoup plus des fois que de l'argent. Ben, typiquement, moi, je vous dis, je perds plus mon temps à tondre mon gazon chez moi. Ça me prenait 2 heures, je paye quelqu'un pour le faire. Évidemment, en travaillant la semaine, les week-ends, ça se résumait à tondre mon gazon, et puis voir le monde avec qui je vis. Pareil pour le ménage. On paye maintenant une personne pour faire le ménage chez nous parce que, ben, sinon, on passe nos week-ends à faire le gazon, à faire de l'entretien ménager. Je paye un déneigeur aussi. Et tous ces services-là font que, ben, j'ai moins d'argent dans mes poches, mais en bout de ligne, j'ai plus de temps. Et je me rends compte que le temps, c'est beaucoup plus important dans certains cas que l'argent, surtout dans certaines périodes de notre vie. Alors, je vous lis un petit peu l'article. Depuis peu, l'importance relative du temps et de l'argent dans l'équation du bonheur est en train de changer. Le temps devient une priorité pour de plus en plus de gens. Ceux-ci sont même prêts à dépenser de l'argent pour acheter du temps. Une étude de Harvard Business School réalisée auprès de 100 000 travailleurs montre que les personnes qui s'offrent du temps riche, c'est-à-dire enrichissant sur un plan personnel, relationnel ou physique, disent avoir une meilleure qualité de vie. Alors, c'est un peu, je vous mets les notes dans le lien vers les notes de l'émission si vous voulez forer dans cet petit article-là. C'est un peu l'air du temps, c'est un phénomène culturel en ce moment, chez nous au moins, en Amérique du Nord surtout, parce que on a tendance ici en Amérique du Nord à intégrer le fait que une profession payante, prestigieuse, ben c'est un meilleur statut social, c'est on est meilleur. Il faut reprogrammer, comme dit dans l'article, le fait que cette pensée-là. Évidemment, je vous dis pas que j'ai un petit salaire, par exemple. J'ai un bon salaire avec ma conjointe, on a un bon salaire, mais on pourrait avoir plus. Mais on aurait moins de temps. On a des enfants, on les verrait moins. On paierait des gens pour s'en occuper. On paierait, et ainsi de suite. Ça finirait plus. Fait que bref, c'est la décision qu'on a prise, c'est on relaxe sur les professions en ce moment, ma conjointe et moi. Pas qu'on fait rien au travail, c'est juste que l'ambition, pour dire à tout le monde à quel point t'as pu réussir, pour changer 14 fois de véhicule dans l'année, pour avoir un plus gros véhicule que mon voisin, en bout de ligne, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur? Je ne juge pas, par contre, ceux pour qui ça les rend heureux. Mais c'est vraiment une tendance ici, et l'article est intéressant pour cette réflexion-là, et je ne sais pas si vous partagez ce point de vue-là. C'était la période réflexion. Je voulais vous parler un petit peu de santé, je vous ai relayé un article. On défonce un peu des portes ouvertes hein, dans l'Eclectic Show avec cet article-là, mais c'est quand même bon de le redire. Ça ne sert pas tout le temps à rien d'aller prendre une marche. Juste une simple marche, des fois, peut avoir des effets bénéfiques sur plein d'aspects. Et c'est cet article-là que je voulais vous relayer. « The things that happen in your brain and if you walk every day ». C'est un article qui vous relaie certaines études, qui vous dit à quel point prendre une marche c'est bon pour vos yeux, prendre une marche c'est bon pour vos poumons, prendre une marche c'est bon pour votre rythme cardiaque, c'est bon pour votre colon, c'est bon pour plein de trucs. Je vous ai mis ça dans les notes de l'émission juste pour réfléchissez un peu à ça. Des fois, ça sert pas à rien d'aller marcher. Ça me fait rire de voir beaucoup de personnes qui se prennent des entraînements dans des centres de sport et qui, en bout de ligne, arrêtent après un mois, alors que s'ils avaient pris l'habitude de simplement marcher 15 à 30 minutes par jour, ça ferait leur exercice et puis finalement, ils seraient peut-être un peu plus en santé et plus réguliers, en fait. Ça, c'était la partie santé. La partie écologie, un article de Protégez-vous. J'ai vraiment aimé, qui parle de véhicules électriques. Lorsqu'on parle de véhicules électriques, on a tendance à se faire rabrouer assez rapidement par « oui, mais les véhicules électriques, ça consomme beaucoup de... c'est beaucoup plus polluant à fabriquer, en bout de ligne, que un véhicule thermique. » Alors, c'est dans le « Protégez-vous » du mois de juin, je pense. Il y a un graphique qui est intéressant, je peux évidemment pas vous le relayer dans les notes de l'émission, mais je vous conseille de vous abonner à protégez-vous.com, qui est un super bon site. Il y a beaucoup de dossiers étudiés, fouillés. Ça, c'est un site avec des données intéressantes, qui explique qu'au Québec, en bout de ligne, parce qu'on a une énergie propre, c'est beaucoup plus avantageux dans les endroits où on a des énergies propres. Typiquement, l'électricité chez nous est faite avec de l'hydroélectricité, mais c'est dans certains autres pays aussi, ou même à la rigueur, dans une certaine mesure, je mets des grosses guillemets, le nucléaire, c'est mieux que le charbon, on se comprend pour certains axes. Mais évidemment, c'est le solaire, l'hydroélectricité qui l'emporte au niveau de la pollution. Et dans cet article-là, dit que la pollution d'un véhicule électrique, elle est sous deux axes. Elle est sur sa fabrication, puis après ça, elle est sur son utilisation. Et on comprend dans l'article qu'un véhicule à essence va polluer beaucoup plus. Je vous donne les chiffres, grosso modo. un véhicule à électrique arrête de polluer dans sa vie là, après 20 000 kilomètres au Québec parce que ben, on a de l'hydroélectricité. Tandis qu'un véhicule à essence pollue tout le temps parce que ben, ça prend de l'huile pour les ça prend des filtres, ça prend de l'essence et ainsi de suite. Fait que ça consomme toujours des ressources. L'impact sur le changement climatique, c'est ça. C'est de consommer des ressources de matières premières, de fabrication et dans sa distribution, dans toutes sortes de choses. Évidemment, lorsqu'on construit un véhicule électrique, ben, ça épuise certaines ressources de plus, des produits pour ses pièces, pour ses batteries, pour sa distribution. Alors, je ne sais pas l'impact dans les autres pays, mais assurément, au Québec, après un certain nombre de kilométrages, votre empreinte écologique est plus basse qu'un véhicule à essence. Évidemment, le meilleur véhicule à essence que vous pouvez acheter, c'est celui que vous achetez pas. Le meilleur véhicule, en fait, pas essence, mais le meilleur véhicule le meilleur véhicule qui pollue pas, c'est celui que vous achetez pas. Le deuxième meilleur, c'est celui que vous faites durer. Si vous en avez un, vous en pressez pas d'acheter un véhicule électrique. Conservez, évidemment, s'il pollue pas, s'il est en bon ordre, ben, continuez à l'utiliser jusqu'à la fin. Puis après ça, quand vous allez, si vous êtes au Québec, hein, ou si vous êtes dans un endroit où l'énergie est renouvelable, ou vérifiez ces études-là, peut-être que vous les avez aussi dans votre pays, vérifiez que, ben, peut-être que c'est pas si grave que ça, un véhicule électrique. Peut-être que c'est même beaucoup mieux qu'un véhicule à essence si vous n'avez pas le choix de l'avoir. Je vous rappelle que il y a aussi les transports en commun, il y a aussi la marche que vous pouvez utiliser, il y a aussi le covoiturage. Je lisais dans un autre article d'une autre revue qu'au Canada, 96% du parc automobile ne roulait pas. Je m'explique. 96% du temps, en moyenne au Canada, un véhicule ne roule pas. Il est stationné, c'est la nuit, on l'utilise pas 96% du temps. 75% des gens au Canada roulent seuls dans un véhicule. C'est un problème parce que on a besoin de plus de routes, on a besoin d'autres moyens pour se transporter, puis les gens sont seuls dans le véhicule. Alors, avant d'aller tout de suite au véhicule électrique, là, il y a d'autres moyens là, pour être un peu plus vert, un peu plus écologique, et c'est peut-être dans ces moyens-là qu'il faut y aller. L'article, il y a une conclusion, il dit qu'au Québec, un véhicule électrique représente un choix d'environnemental préférable à un véhicule conventionnel. Mais c'est parce qu'on a des conditions un peu plus gagnantes, je vous dirais, que dans certains autres pays. C'est ce qui met fin à l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire dans la section « Contactez-moi » de tous mes sites, à peu près partout. Vous pouvez le faire aussi, ben, idéalement, sur Twitter, à @profduweb, et aussi sur le site profduweb.com. N'oubliez pas d'aller noter l'émission, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de faire évoluer le schmilblick, comme on dit, si vous avez des choses qui vous ont interpellé pendant l'émission, ou si vous voulez donner des compléments d'information, ça fait toujours plaisir de mettre ça dans le site de l'émission. Et puis, ben, je vous rappelle vos devoirs pour le mois d'apprendre, d'aimer et de partager. Je vous souhaite un très bon mois. Ciao, ciao!